et c'est maintenant le moment de la chronique actualité avec Sébastien Saint-François qui est avec moi au bout du fil. Salut Sébastien.
Bonjour Dave, ça va bien?
Ça va très bien. Toi, t'es déjà parti en chalet là, dans tes vacances. Là.
Ben, je travaille de mon chalet, en effet. Je suis en Estrie en ce moment. Il neige et des petits flocons dans le ciel.
Oh, l'hiver n'est pas fini par là.
Non, il a neigé hier. On a un petit tapis au sol, là, mais bon, ça va fondre. Mais ça nous rappelle qu'on n'est pas encore rendu à l'été.
On est en avril, faut pas se découvrir d'un fil, comme on dit.
En effet.
Donc, tu vas nous parler ce matin, là, pour commencer, du complexe multisport Boucherville montré du doigt par l'autorité des marchés publics.
Ben oui, c'est rare que je parle de Boucherville parce qu'il se passe pas grand-chose. Je suis résident de Boucherville depuis longtemps, mais c'est rendu une ville pas mal dortoir. Mais on apprenait la semaine dernière par Radio-Canada, en effet, que l'administration a été montrée du doigt par l'autorité des marchés publics. Faut savoir qu'il y a en ce moment un complexe multisport qui est en construction au coût de plus de 45 millions de dollars. Nos rues tombent en ruine, mais on a de l'argent pour ça, faut croire. Et puis, ce qui est arrivé, en fait, pour résumer le dossier, c'est que ça a été lancé à l'été 2023, donc l'appel d'offres. Excuse-moi. Et puis, la ville a reçu un certain nombre de soumissions, 5, je pense, au total, qui tournaient autour de 45 à 47 environ millions de dollars. Mais en cours de processus, la ville a appris qu'il y avait possibilité d'obtenir une subvention du ministère de l'Éducation. Par contre, la condition pour obtenir cette subvention-là, c'est qu'il fallait pas que le contrat soit octroyé. Donc, ce qui est arrivé, grosso modo, c'est que la ville avait en main 5 soumissions. Tu es obligé d'aller avec le plus bas soumissionnaire, bien sûr, selon les règles en vigueur. Mais avait un problème parce que là, on fallait attendre. On pouvait pas octroyer le contrat tout de suite parce qu'on voulait voir si on pouvait obtenir une subvention. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a négocié discrètement, puis discrètement, c'est le mot qui est utilisé dans l'article de Radio-Canada, une compensation financière de 2,4 millions avec le plus bas soumissionnaire pour retarder le tout. Donc, ce qu'on a dit, la ville a dit, écoutez, on vous prend parce que vous êtes le plus bas soumissionnaire, mais on ne pourra pas procéder avant peut-être un an et plus parce qu'on attend une réponse pour une subvention. Et donc, on a dit, on va vous compenser en vous accordant 2,4 millions supplémentaires. Au final, la ville n'a pas obtenu la subvention. Et donc, ce qui est arrivé concrètement, c'est que le plus bas soumissionnaire est devenu le plus haut soumissionnaire au final avec cette compensation de 2,4 millions. Donc, je trouve que pour une administration qui est là depuis 16 ans bientôt, au mois de novembre, ça va faire 16 ans, 4 mandats. À Boucherville, on n'a pas eu de changement depuis longtemps. C'est fait un peu amateur. Et la ville, donc j'ai lu sur la page Facebook de la ville cette semaine que soyez assurés qu'on fonctionnait dans le plus grand intérêt des citoyens. J'en ai pas de doute, mais je trouve que ça fait amateur. Et là, il y a une série de recommandations que l'AMP a faites à la ville. Et la ville a 45 jours pour y donner suite. Et j'écoutais cette semaine... Parce que notre maire, tous les mardis, en fin de journée, publie une infocapsule sur Facebook, donc où il fait le bilan des nouvelles de la semaine. Là, pour la plupart, c'est des choses qu'on sait déjà, mais bon, il aime ça faire ses infocapsules. Et puis, il se disait déçu des recommandations de l'AMP. Donc, il avait l'air vraiment à dire, ben là, je comprends pas trop pourquoi on nous blâme. Puis, mais en tout cas, ça sera à suivre parce que la ville doit donner suite à ça dans les 45 jours. Mais je trouve que ça fait assez amateur, merci, là. Après 4 mandats, il me semble que l'administration devrait savoir connaître les règles de fonctionnement puis savoir comment procéder.
C'est une évidence. Là. Si le plus bas devient le plus haut, à un moment donné, ça veut dire que les autres en dessous auraient été plus profitables pour la ville.
Oui, puis au final, comme je disais, on n'a pas eu la subvention de toute façon. Alors, tout ça a été fait pour rien. Et puis, ce blâme-là aurait pu facilement, je pense, être évité. Là, parce que, de toute évidence, on comptait sur quelque chose qui n'est pas arrivé.
Bon. Québec, du côté de Québec, là, on mise sur l'élimination du prix plancher pour faire baisser le prix du litre d'essence.
Ouais, on a appris ça plutôt cette semaine. Écoute, on sait que depuis le 1er avril, la taxe carbone est suspendue, hein, faut le dire. Ça n'est pas abandonné. Mark Carney a signé un document pour le suspendre. Est-ce qu'il va le remettre en fonction s'il est élu le 28? Ça reste à voir, hein. Tout est possible parce que cette taxe-là n'est pas éliminée, elle est suspendue. Pour l'éliminer définitivement, ça va passer par une loi, donc il faut que ça nécessairement que ça soit adopté au Parlement, ça sera à suivre. Au Québec, donc, on mise sur... Il faut savoir que depuis 1996, donc, on a un prix plancher, donc les détaillants ne peuvent pas vendre en dessous d'un certain prix qui varie d'une semaine à l'autre, et selon les régions et tout ça. Donc, on mise là-dessus. Moi, j'ai des doutes parce que, bon, ce que j'ai lu, ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer les plus petits joueurs. Il n'en reste pas énormément, il faut le dire, là. À l'échelle de la province, je pense qu'on disait qu'il restait 70 véritables indépendants là, dans la province, donc c'est pas énorme. Mais ça sera à voir, parce que certains disent que ça risque à long terme d'augmenter les prix. Ce qui est indécent depuis deux semaines, bientôt trois, c'est que le litre d'essence au Québec se vend le plus cher sur le continent pratiquement nord-américain. Chez nos voisins en Ontario, l'écart est assez important, et aussi avec les autres provinces, y compris la Colombie-Britannique, qui avait des prix plus élevés que nous avant. Alors, ça sera à voir. Mais ce qu'on a appris hier avec la décote du Québec, donc on a appris que le Québec a été décoté. Ce que ça veut dire au clair, c'est que ça va coûter plus cher à emprunter au gouvernement du Québec. Et ça démontre que les finances sont tellement serrées, je me demande même si le gouvernement du Québec peut se priver de cette taxe sur l'essence qu'il perçoit depuis des années. Parce qu'on est vraiment rendu serré. Là, on sait qu'on a fait un déficit record l'année passée. On a un déficit encore cette année. Les perspectives sont pas bonnes. On retarde des projets comme l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour des raisons budgétaires. On a un paquet d'affaires sur la table qui n'avance pas en raison d'argent, pour l'argent, des raisons budgétaires. Alors, tu sais, quand on parle de litre d'essence, est-ce que le gouvernement du Québec peut vraiment se priver de ça, mais en même temps, ça pose un méchant problème au niveau de la concurrence par rapport à nos voisins. Je veux dire, tu sais, on n'est plus sur le plan de l'essence, on n'est plus du tout dans la game, comme on dit. Ça démontre qu'on est vraiment à côté au pied du mur. Puis il faut prendre ça au sérieux, ce qui est arrivé hier. Tu sais, on entend ça, bon, le Québec a été décoté, bon, c'est pas grave. Non, c'est sérieux parce que ça a un paquet d'implications dans un paquet de domaines. Est-ce que le message qui est envoyé par, bon, dans ce cas-ci, c'est Standard & Poor's, qui est une agence d'évaluation de crédit, c'est que vous êtes vraiment dans une position difficile, le Québec, et on a moins confiance que vous êtes capable de vous en sortir à court, à moyen terme. C'est ça que ça veut dire au clair.
Oui, puis là, c'est ça. C'est parce que, tu sais, comme tu dis, les gens font pas toujours le lien là, entre le. Tu sais, ils disent, ça va remonter éventuellement ou pas.
Ben ouais.
Mais comme tu dis, ça a des impacts qui sont pas visibles sur le prix de la pompe et plusieurs autres choses. Là.
Absolument. Absolument. Tu sais, c'est. Puis le big picture, c'est que on compte beaucoup sur toutes sortes de taxes au Québec. Et malgré ça, on est à côté, au pied du mur, côté budget, puis côté marge de manœuvre. On n'a pas de marge de manœuvre. C'est incroyable de voir ce qui est arrivé depuis deux mandats au gouvernement. Tu sais, on est sorti de l'austérité du gouvernement Couillard, qui a laissé des surplus dans les coffres. Ces surplus-là sont déjà plus là. Et là, on est revenu dans une situation où il va y avoir des choix difficiles à faire. Là. Des choix très difficiles à faire.
Ben en effet, surtout que quand on n'est pas capable justement de faire la réflexion d'un simple hôpital ou d'investir en éducation ou dans des choses de base.
Absolument.
On cherchera pas le malheur, mais c'est de mauvaise augure là, présentement.
Disons, pour tous les besoins qu'on a au niveau de la société québécoise, là, il va y avoir des choix difficiles à faire. Puis là, je crois que le prochain gouvernement va ramer pas mal. Puis d'écouter le ministre des Finances hier essayer de justifier la décote du Québec, dire qu'ils ne comprennent pas, puis ils n'ont pas compris notre budget, puis nos plans. Je pense que non. Je pense que c'est pas une question de ne pas avoir compris. Ils ont très bien compris, puis ils ont très bien vu qu'on est à côté au pied du mur, puis que ça ne sera pas facile de sortir de la situation dans laquelle on est.
Exact. Puis parlant de nouveau gouvernement au Québec, oui, il y en aura un, mais hier, il y a aussi eu le débat là, pour le nouveau gouvernement du Canada. Comment tu as trouvé ça?
Donc, j'ai écouté ça comme bien des gens, j'en suis sûr. Écoute, moi, je suis dans le clan où j'ai toujours pas décidé pour qui je vais voter. Je sais que selon les sondages, la majorité des gens disent qu'ils savent puis ça changera pas. Moi, je le sais toujours pas parce que ce qui me dérange, ce qui m'irrite énormément dans cette campagne qui n'en est pas une en ce qui me concerne, parce que tout ce qu'on tout ce dont on parle depuis le début, c'est Trump et à peu près rien d'autre. Alors que les enjeux du Canada sont balayés pas mal du revers de la main. C'est qu'on est à une dizaine de jours du vote, de la journée du vote. On a eu un premier débat. Il va y avoir un débat ce soir en anglais que je vais devoir écouter pour essayer enfin de me faire une tête, parce que c'est toujours pas le cas. Mais on n'a pas de cadre financier.
Non, il n'y en avait pas hier, hein? Non, c'est ça.
Non, il n'y en a pas du tout. M. Carney a dit que ça s'en vient en fin de semaine. C'est la fin de semaine de Pâques. Ben oui, pourquoi pas. Et M. Poilievre non plus, il n'y a pas de cadre financier d'annoncer encore. Ça s'en vient, dit-on. Alors, on nous garoche depuis le début. Des promesses à n'en plus finir, des baisses d'impôts, on va investir dans la défense, on va faire ci, on va bâtir des logements, on va... Ben, écoute, il y en a des promesses, mais on sait toujours pas sur quoi ça repose tout cela. Rappelons que le déficit fédéral dépasse les 60 milliards pour l'exercice précédent. Il sera encore dans les dizaines de milliards pour cette année. Après une dizaine d'années de Justin Trudeau au pouvoir avec des déficits à n'en plus finir. M. Carney, donc on l'a élevé au rang de demi-dieu très rapidement, comme quoi il va nous sauver, il va régler tous nos problèmes, il va résister à Trump alors que personne peut vraiment dealer avec un gars comme Trump parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire d'une journée à l'autre. M. Poilievre, donc, a dû modifier beaucoup son message après le départ de Justin Trudeau parce que, bon, ça ne résonnait plus aux oreilles des gens. Mais toujours est-il, on nous promet même et monde, et on n'a toujours rien comme chiffre sur la table. Et on sait très bien que les cadres financiers des partis politiques, on doit les prendre avec un grain de sel, parce que bon, on peut nous lancer les chiffres qu'on veut bien nous lancer, mais toujours est-il, c'est un exercice habituellement obligatoire dans une campagne électorale, et ça se fait toujours attendre. Et rappelons que le vote par anticipation commence demain, là. Alors, il y a des gens qui vont aller exercer leur droit de vote dès demain, et ils vont probablement voter, si on se fie au sondage, en tout cas au Québec, M. Carney est trône à 40+%. Donc, bien des gens vont voter pour M. Carney, mais on ne sait toujours pas comment il va équilibrer les chiffres. D'autant plus que dans le cas de M. Carney, il nous promet un retour à l'équilibre budgétaire dans 3 ans, ce à quoi je ne crois pas du tout. Et d'autant plus qu'il essaye de jouer un petit jeu de comptabilité depuis qu'il est là, de nous dire que là, il va diviser le budget en 2 parties, le volet opérationnel, puis le volet ci, puis le volet ça. Puis lui, ce qu'il s'engage à faire, c'est d'équilibrer le volet opérationnel. Mais tu sais, il nous parle pas du grand portrait global, là. Alors, tu sais, pensez-y un peu, là, avant de mettre votre X, là... C'est loin d'être clair que ni un ni l'autre. Moi, je parle de ces deux-là parce que c'est les deux qui peuvent prétendre au poste de premier ministre, même si très lourdement les sondages indiquent que ce sera une victoire libérale. Mais ni Poilievre ni Carney ne nous expliquent vraiment comment ils vont faire pour respecter leurs promesses et revenir à l'équilibre budgétaire. Donc, au fédéral aussi, on est dans une situation, OK, oui, on nous parle toujours on nous sort toujours le ratio dette-PIB pour nous dire qu'on est en meilleure posture que d'autres pays du G7. Oui, bien d'accord. Mais on est quand même dans une situation assez difficile au niveau fédéral aussi, là.
Oui, exactement. Puis ça sera à suivre aussi. Tout ça, peut-être qu'on aura des réponses plus claires avec le débat en anglais. On sait que Mark Carney sera plus à l'aise, en tout cas, de dialoguer en anglais, là.
Mm-hmm. Ouais, c'est pour ça que je veux l'écouter ce soir, parce que moi, j'ai écouté hier, puis il n'y a personne qui a vraiment sorti du lot, à part M. Blanchet, bon, bien sûr, qui était dans son élément, dans sa langue et tout, mais personnellement, puis ça, c'est une opinion personnelle, je ne vote pas Bloc, parce que je pense que ça nous prend un gouvernement fort pour les années à venir, compte tenu de ce qui se passe au sud de la frontière. Puis c'est sûr que M. Blanchet ne peut pas former un gouvernement. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'argumentation hier soir, celui qui a ressorti du lot à mes oreilles, c'est M. Blanchet, bien sûr, parce que c'est celui qui avait les arguments les plus solides là, sur la table. Mais les autres, c'était plus des slogans là, qui sortaient.
Oui, exactement. En tout cas, on suivra ça avec attention dans les prochains jours, surtout, comme tu dis, avec le vote par anticipation qui s'en vient. Je te remercie beaucoup d'être sorti de ta retraite ou de travailler du chalet pour nous faire ta chronique, Sébastien.
Sans problème. Bonne journée
Merci.
À tout le monde.
Merci, bonne Salut. Journée.